Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue est l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halud Mouni.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Quelle priorité et quel défi pour le prochain président du Mali? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir et nos invités sont professeur Abdoulaye Niang, directeur du Centre de Recherche Séné, docteur Diakari Poudjougo, juriste chargé de cours à l'Université de Bamako et professeur Issa Ndiaye, spécialiste des questions sécuritaires au téléphone. Je suis Mohamedou Touré, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
L'élection présidentielle en cours au Mali, 24 candidats au début pour le premier tour. Les Maliens ont déjà choisi deux selon les résultats provisoires qui ont été proclamés par le ministère de l'administration territoriale. Mercredi prochain, les résultats définitifs sont attendus avec la Cour constitutionnelle. Alors donc, à partir du 12 août, les Maliens vont devoir choisir un parmi les deux candidats qui vont devoir se retrouver au second tour. Et quelles seront les priorités et les défis pour celui qui va être choisi par les Maliens, professeur Abdoulaye Niang, selon vous, quelles seront ses priorités et défis?
Bonsoir à tous. Je souhaite ardemment que le 12 y ait le second tour.
Vous pensez qu'il y a des doutes? Vous doutez par rapport à la tenue de ce second tour?
Je suis un statisticien aussi, même si je suis économiste.
D'accord.
Il y a une forte probabilité qu'il n'y ait pas de second tour. Si la Cour constitutionnelle, si vous permettez une minute seulement.
Allez-y.
Si la Cour constitutionnelle veut réellement préserver l'intégrité de l'institution, une institution de la République, il serait probablement judicieux pour elle d'invalider le scrutin et de se donner du temps pour procéder à un recensement correct et avoir une base de données correcte, fiable, crédible, incontestable pour organiser pour la 4e République en juillet 2020 l'élection présidentielle. On va en transition.
D'accord. Avant de répondre à la première question que je vous avais posée, Dr Diakari Poudjougo, pouvez-vous réagir par rapport à cette analyse de professeur Niang? Est-ce que vous pensez que la Cour constitutionnelle devrait invalider ce scrutin?
Alors, je reste très prudent parce que la Cour est une juridiction et elle est souveraine. C'est à elle de trancher, de valider ou d'invalider. Donc ce n'est pas à moi de me prononcer parce que la Cour a les preuves que moi je n'ai pas. Donc c'est à elle de se prononcer.
D'accord. Professeur Niang, maintenant la première question, c'était quelles seront les priorités, quelles doivent être les priorités et les défis à relever par le prochain président?
D'accord. Tout juste 30 secondes là-dessus. Hein. La Cour est contestée. C'est dommage. Sa crédibilité est mise en doute et on sait que l'élection présidentielle est à déviation comportementale avérée par rapport à l'intégrité et à la fraude. On ne doit pas avoir un président élu sur la base de la fraude parce qu'il est indigne de la haute fonction du président de la République. Ça a été dit en France aussi. Et nous, et dans un pays comme le Mali, un pays de Djougo ni Maya, Maya Djougo Tiabila donc Kola, Maya son Tiabila Bo.
D'accord.
La priorité des priorités, je pense que nous sommes partis à l'élection présidentielle avec un État désintégré. Les cinq régions du Nord sont suivant un système de gouvernance administrative et politique. Et le Sud, il y a Sikasso qui est suivant un système de gouvernance administrative et politique différent de celui de ceux du Nord. Et vous avez Kai qui a été amputé de Nioro, et Kulukuro qui a été amputé de Joila, et Kita et Nara sont restés dans le ventre de la maman alors que c'était des jumelles qui devaient sortir. Donc la première priorité, le premier conseil des ministres ou les premiers 100 jours, c'est de s'assurer qu'il y a une réorganisation territoriale parfaite, totale, qui couvre l'ensemble du territoire malien, qu'il y a la nouvelle architecture institutionnelle qui est selon l'article 6, chapitre 3 de l'entente de Bamako de 2015, donc de l'accord d'Alger, n'est-ce pas, soit appliquée sur l'ensemble du territoire malien. Je pense que ça, c'est la priorité des priorités. Une fois que cet environnement est créé, cet environnement administratif et politique et privé créé à travers l'élection des présidents des régions et des cercles au suffrage universel direct, nous pouvons aller maintenant pour assurer la sécurité économique, la sécurité humaine et tout ce qui s'ensuit. Le développement sera un développement normal et la responsabilité reviendra aux enfants du tiroir de développer leur communauté de localité, mais selon une vision de prospérité partagée.
D'accord. À vous, docteur Diakari Poudjougou. Quelles doivent être les priorités et quels seront les défis à relever par le prochain président de la République?
Je pense que le prochain, celui qui sera confirmé par les Maliens, n'est-ce pas, au second tour, il aura parmi ses grandes priorités, ça c'est tel que je vois, selon mon analyse, la lutte contre la corruption. Ça c'est une priorité. La lutte contre la corruption et donc la bonne gouvernance. Ensuite, je reviendrai à la deuxième priorité qui a été soulevée par le professeur Nian, c'est la sécurité dans toutes ses dimensions. Je crois que les deux sont étroitement liés. Quand on n'a pas une bonne gouvernance, quand il n'y a pas de transparence, quand il n'y a pas de lutte contre la corruption, l'insécurité s'accroît. Et troisième priorité, c'est la santé. Donc, je vais combiner ça au défi sécurité, puisqu'il y a aussi la sécurité humaine. Je dirais donc, troisième sécurité, plutôt l'agriculture ou l'alimentation,
d'accord,
les deux.
D'accord. Alors, professeur Issa Ndiaye, vous êtes spécialiste des questions sécuritaires. Selon vous, quelles doivent être les priorités et quels seront les défis à relever par le prochain président de la République?
Moi, j'ai une écoute mauvaise. Hein, la qualité de la liaison n'est pas...
D'accord. Les techniciens vont voir pour pouvoir améliorer cette qualité.
Ce qu'on dit les autres collègues. Mais... À mon avis, allô,
je vais vous résumer un peu. Professeur Abdoulaye Niang pense que retrouver l'intégrité du territoire et sécuriser le territoire et les Maliens, ça devrait être les priorités du prochain président de la République. Et M. Diakari Poudjougou, lui, soulève comme première priorité la lutte contre la corruption, la sécurité et l'agriculture.
Allô?
Oui, allô, vous m'entendez?
Vous m'entendez, oui. Oui.
Oui, allez-y.
Oui, moi je pense qu'il y a une question préalable qui est essentielle. À mon avis, le président élu, quel qu'il soit, n'aura pas la réalité du pouvoir. Ça veut dire qu'il n'aura pas les moyens de sa politique parce que cela suppose que nous sommes un pays indépendant, ce qui n'est pas le cas.
Le Mali n'est pas indépendant?
Nous ne sommes pas un pays indépendant. Un pays souverain. Donc, pour moi, la priorité des priorités, c'est la question de la souveraineté nationale. Parce que pour décider d'une politique, il faut avoir la souveraineté nécessaire et il faut se donner les moyens d'appliquer cette politique. Or, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, le président, quel qu'il soit, sera pris en otage par les puissances internationales qui sont en réalité les véritables maîtres du jeu. Le Mali n'est plus un pays indépendant. Donc, en plus, c'est un pays politique, c'est un pays occupé. Donc, quel va être le pouvoir réel du président? Je pense que c'est ça la question essentielle.
Mais occupé par qui?
Par des troupes étrangères. Hein. Il y a la France, il y a les Nations Unies, ainsi de suite. Donc, quelle est la marge de manœuvre réelle du président que nous allons élire? Il n'y en a presque pas. Quels sont les moyens qu'il va avoir donc pour redresser l'économie? Quels sont les moyens pour assurer le développement institutionnel du pays? Pratiquement pas. Je pense que c'est ça la question fondamentale. Donc, tant qu'on ne réglera pas cette question fondamentale là, la question de la souveraineté, ça se décline à plusieurs niveaux, ça se décline sur le plan donc économique, sur le plan financier, sur le plan sécuritaire, sur le plan alimentaire, ainsi de suite. Donc, c'est cette question essentielle-là qu'il faut poser. Et je pense d'ailleurs que Ibeka en avait eu conscience à un moment, au début de son mandat, mais quand il a voulu faire preuve d'un peu d'indépendance, l'affaire Tomy est tombée. on l'a recadré. Je pense qu'aujourd'hui, la question essentielle dans nos pays, ce n'est pas le spécifique au Mali, c'est une question générale, transversale, qui traverse tous les pays africains. Et nos chefs d'État sont des chefs d'État qui sont là pour la forme et ils n'ont pas les moyens de leur politique. Parce qu'il y a les puissances étrangères, notamment la France, qui exerce en réalité une tutelle trop forte qui fait que nos pays ne sont pas souverains et ne veulent pas décider d'une politique assurée.
D'accord. Monsieur Diakari Poudjougou, vous semblez ne pas être d'accord avec professeur Issa Ndiaye.
Effectivement, je pense tout à fait autre chose. Je crois qu'il est temps pour nous, nouvelle génération, de grandir, de ne pas tomber dans les erreurs de nos aînés. Nous les respectons. Mais comment se laisser tout le temps utiliser comme des, excusez-moi, du papier toilette et dire qu'on n'est pas indépendant? Le monde n'est pas dans une sorte d'idéalisme. C'est clair, chacun
a... Excusez-moi pour mieux comprendre. Qui se laisse utiliser, les citoyens lambda ou les dirigeants?
Alors, les dirigeants en premier. Je crois que pour être dirigeant, vous avez parlé d'abord des priorités. Mais là, la question porte sur plutôt le profil du dirigeant. Parce que si on s'est fait manipuler, on n'est pas digne de diriger. Si on n'est pas capable d'avoir sa politique, d'avoir ses objectifs et ses moyens, on n'est pas digne de diriger. Alors, le procès a parlé du président Ibeka et de l'affaire Tommy. Mais je ne veux pas porter un jugement sur le président, mais je sais une chose, un président qui est digne de diriger, qui mérite cette responsabilité, ne recule pas. Parce que pour lui, il est prêt à mourir pour la cause nationale. Mais quand vous n'avez pas cette carrure, quand vous n'avez pas cette audace, vous ne méritez pas de diriger. Un dirigeant, c'est d'abord quelqu'un qui a un projet pour sa nation et qui est prêt à mourir pour cette nation. Il ne peut pas reculer. Je crois qu'il faut faire attention lorsqu'on dit tout le temps qu'on nous manipule, qu'on fait ceci, cela. Je dis toujours que ne peut être manipulé que ce qui est manipulable. Si on arrive à nous manipuler, à nous intimider, c'est parce que nous avons manqué de certaines audaces et compétences. Personne ne peut nous obliger à ne pas appliquer ce qui est bien pour notre nation.
Mais est-ce que vous êtes d'accord avec professeur Ndiaye quand il dit qu'une des priorités devrait être la souveraineté du pays parce que le pays est occupé par notamment des forces étrangères?
Alors, tout cela, pour moi, est la conséquence de la corruption. Lorsque c'est par la corruption qu'on arrive au pouvoir, lorsque c'est par la corruption qu'on gouverne, c'est tout à fait logique que le pays soit occupé. Quand il y a la corruption, rien ne fonctionne. La sécurité ne fonctionne pas. La politique, la gouvernance ne fonctionne pas correctement. Rien ne marche. C'est pourquoi j'ai commencé par la lutte contre la corruption. Dans un pays où la corruption touche tous ses secteurs, rien ne peut aller. C'est clair. Donc, si on lutte réellement contre la corruption, je crois qu'on a gagné tout le combat.
D'accord. Étape par étape, sécurité, gouvernance et également éducation, services sociaux de base. Alors, dans le domaine de la sécurité, quelles doivent être les priorités du prochain président de la République, selon vous?
Voilà, il faut d'abord toiletter, n'est-ce pas, tous les services. La lutte contre la corruption. Parce que vous voyez ce qui se passe en termes de sécurité. Avant qu'on ne tombe dans cette crise, nous avons constaté que les passeports maliens étaient vendus comme des galettes. Un État sérieux ne ferait pas cela. On a beaucoup de documents officiels de notre pays qui étaient devenus achetables. C'est terrible. Et comment peut-on sécuriser un pays lorsque presque tous les services sont corrompus? C'est impossible. Donc, lorsqu'il y a un manque de transparence dans la sécurité, on ne va jamais atteindre son objectif. Donc ça, c'est un toilettage de tous les services d'abord. Et ça, ce n'est pas le travail seulement d'un homme. Parce que la corruption est devenue un état normal dans notre pays, malheureusement. Elle a gagné tous les secteurs. La famille, l'école, le travail, la gouvernance à tous les niveaux. Je dirais même la mosquée, l'église, tous les secteurs ont été frappés par la corruption. Donc il faut une nouvelle mentalité. D'abord, pour que le Malien se mette au travail et travaille dans la transparence. Je crois que c'est la première des choses à faire.
D'accord. Professeur Abdoulaye Niang, dans le domaine de la sécurité, quelles doivent être les priorités du prochain président de la République?
Le Mali est occupé. Cette fois-ci, je vais le considérer avec Poudjou.
D'accord.
Il est occupé par des forces autres que nationales.
Donc vous pensez aussi, comme professeur Issa Ndiaye, que le Mali est occupé par des forces étrangères?
Le Mali est occupé par des forces autres que nationales.
Expliquez.
D'accord. Nous avons l'opération Barkhane qui est là, donc avec des forces spéciales françaises. Mais nous avons aussi la MINUSMA avec des forces spéciales africaines et non africaines. Et en réalité, ils sont venus pour la sécurité économique de leur propre localité. C'est-à-dire que les régions sahariennes étant un espace très riche en toutes sortes de ressources, en eau, vent, soleil, sable, toutes sortes de ressources minérales et tout, ils sont venus pour avoir leur part de ça, et qui avait été décidé depuis 1954. Et François Hollande a voulu le ressusciter et en créant Kona d'abord, puis après maintenant se diriger vers les régions sahariennes qui étaient leur destination première, et plus tard venir vers le centre, et du centre aller vers le sud où il y a les zones minières, le centre où il y a l'office Niger. Donc, ces forces, c'est une mobilisation de ressources sécuritaires qui a dominé par rapport à la rétention des richesses. C'est-à-dire que ces nations sont là aujourd'hui depuis 5 ans. Ils sont en train de dépenser des ressources sécuritaires, mais ils ne sont pas en train d'avoir ce qu'ils devaient avoir comme richesse retenue de la protection, de la sécurisation des régions sahariennes, de la stabilisation des régions sahariennes. C'est ce qui fait que finalement, ils ne s'entendent pas parce qu'il n'y a pas une vision commune.
Alors, le prochain président, est-ce qu'il doit mettre fin à cette situation ou non, est-ce qu'il doit, négocier?
Il doit simplement écouter les chercheurs. Nous sommes trois ici, on peut apporter notre contribution. Issa Ndiaye, que je salue de passage, a organisé beaucoup de réunions sur la sécurité, où certains d'entre nous aussi ont participé en tant que panélistes. Aujourd'hui, la priorité des priorités du président du point de vue sécurité, c'est d'organiser une conférence des Nations Unies sur le développement et la sécurité et sortir une vision de prospérité partagée à un niveau qui amène la stabilité, la paix et la sécurité entre tout le monde, entre l'Afrique, entre le Mali et les autres pays africains, entre l'Afrique et les autres nations. Et ainsi, on verra en nous non pas ce qu'on voit maintenant, mais plutôt on verra en nous des véritables partenaires qui peuvent contribuer à la prospérité des uns et des autres, sans pour autant être assujettis à leurs lois. On n'a pas besoin... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit que le Mali, par exemple, a 5% ou 6% de croissance économique. Mais le Mali ne retient que peut-être 20% ou 10% ou 1% de la richesse générée de ces 5% de croissance économique. Si nous organisons la conférence des Nations Unies sur cette vision de prospérité partagée, vous allez voir que le Mali, qui est peut-être à la 175e place de l'indice de développement humain, va se trouver peut-être dans les 20 premiers.
D'accord. Alors, professeur Issa Ndiaye, vous, que proposez-vous qui devraient être les priorités du prochain président de la République dans le domaine de la sécurité?
Oui, je voudrais d'abord rebondir sur deux choses. Un collègue tout à l'heure parlait de manipulation. Je pense essentiellement que ce n'est pas une question de manipulation, mais c'est une question de rapport de force. La politique, c'est avant tout une question de rapport de force. Or, les rapports de force au niveau international et sous-régional et à l'intérieur de nos pays, ne sont pas en faveur de nos décideurs nationaux. Je pense que ça, c'est une réalité en court terme qu'il faut comprendre. Leur marge de manœuvre est très faible. Nous avons eu ici des chefs d'État assez volontaristes, même au Mali, ici, et dans d'autres pays voisins, qui ont essayé de changer la donne. Ils étaient patriotes, ils aimaient leur pays, ils ont essayé de changer la situation dans leur pays. Et ça s'est terminé souvent par des coups d'État et puis des assassinats. Le rapport de force à l'international est tel aussi que nos chefs d'État n'auront pas les moyens de leur politique. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat sur lequel je vais rebondir, c'est la question de la corruption. Je pense qu'on essaie de nous expliquer que le retard accusé par nos pays est dû à la corruption, à la mauvaise gouvernance. C'est vrai en partie, mais la réalité est que ce sont des rapports de domination à l'échelle internationale qui nous empêchent de nous développer. Yang tout à l'heure parlait des richesses qui sont exploitées dans nos pays et les retombées sur le plan national sont très faibles. Ce sont les multinationales étrangères qui profitent de nos richesses nationales. Nos pays n'en profitent pas.
Mais est-ce que ce n'est pas les dirigeants qui les laissent profiter de ces ressources?
Non, c'est pas. Même si les dirigeants voulaient qu'ils ne profitent pas de ça, il faut créer un rapport de force. Et ce rapport de force ne peut être créé par la mobilisation populaire. Si nos pays donc mobilisaient leur population autour d'une politique de souveraineté nationale, ça peut marcher. Sans compter que ça va barrer.
Donc vous pensez que les dirigeants maliens ne bénéficient pas du soutien de la population?
Je ne crois pas. Je pense que ce qui nous manque essentiellement, c'est des dirigeants assez patriotes. Je pense que dans les circonstances actuelles en Afrique, il y en a très peu. Il faut dire que ce ne sont pas seulement les dirigeants, ce sont aussi les Maliens qui sont peu patriotes. Les Maliens n'aiment pas leur pays. Si nous aimions notre pays, on ne se comporterait pas comme on le fait actuellement. Je pense que c'est ça la question fondamentale. La question fondamentale, c'est la question de la souveraineté et donc du patriotisme. Tant que nous ne serons pas suffisamment patriotes, nous ne pourrons pas définir des alternatives politiques qui permettent à nos pays de nous en sortir.
Alors que doit faire le prochain président pour pouvoir sécuriser les Maliens?
Il ne peut pas le faire non plus. Il faut d'abord mobiliser les Maliens autour du Mali. Et quand on réglera cette question cruciale, la question de la sécurité va se régler d'elle-même. Parce qu'en ce moment-là, les Maliens se battront pour assurer eux-mêmes la sécurité de leur pays. On ne peut pas confier la sécurité de son pays à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. C'est une démission nationale.
Professeur, merci de m'avoir donné la parole une fois de plus. Et je dirais, lorsque la locomotive est assez forte, elle ne peut que tirer les wagons. C'est clair. Et le peuple n'a besoin que d'un dirigeant qui veut le tirer vers le bien. Il ne refuserait jamais cela. Et je refuse toujours qu'on accuse l'Occident ou les autres États, qu'on nous empêche ceci. Une chose est claire, je ne dis pas qu'on nous facilite la tâche. On ne nous le fera jamais d'ailleurs. La vie est ainsi faite. Mais lorsque nous rejetons toujours la faute sur les autres et que nous refusons de faire quelque chose de nous-mêmes, c'est assez lamentable. C'est assez grave. Pour parler d'autonomie, d'indépendance, il faut d'abord être soi-même autonome. Le garçon qui dit qu'il est indépendant, il n'a pas besoin de l'aide de son papa, etc., il doit être capable de travailler pour assumer son autonomie. Sinon, même à 50 ans, vous n'êtes pas autonome si vous n'arrivez pas à assurer, n'est-ce pas?
Mais qu'est-ce qui empêche les dirigeants maliens de l'être s'ils ne le sont pas?
C'est le profil, c'est ce que je viens de dire. C'est le profil. D'abord, la formation. Donc, le président malien qui peut faire sortir le Mali de ce bourbier doit être un homme extrêmement cultivé, un homme audacieux, un homme droit, juste, un homme qui n'est pas corrompu, un patriote. C'est très important.
Mais est-ce que ce n'est pas la population également qui doit pousser ce dirigeant à l'être?
Je vous dis que même si c'est un monstre qu'on avait fait sortir de la rue en 2013 et qu'il marchait droit dans ses bottes pour se sacrifier pour l'intégrité territoriale, les Maliens allaient le suivre. Ça, c'est mon point de vue. C'est assez clair. Donc, le peuple suit toujours les gens qui sont engagés, qui sont droits, qui défendent leurs intérêts. Prenons juste un exemple. Juste à côté de nous, à 300 mètres, en face du stade Modibo Keïta, qu'est-ce qu'on voit? Des ordures qui puent. Il faut se boucher les narines pour traverser. Est-ce la France qui nous empêche de dégager cela? Arrêtons, je crois, d'accuser les autres. C'est à nous de travailler. Il faut que nous ayons l'audace d'assumer notre autonomie. Nous voulons être autonomes, mais nous ne voulons pas assumer nos responsabilités pour être autonomes. Personne ne peut nous empêcher de travailler. Prenons l'exemple Paul Kagame. On peut le traiter de dictateur et de tout ce qu'on veut. Mais c'est sûr, est-ce qu'on peut venir occuper son territoire aujourd'hui par les forces internationales ou quelconque? Je prends. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas occupé le Mali au temps de Modibo Keïta? Parce que c'était réellement un homme. Nous avons besoin d'un homme audacieux qui est capable de se sacrifier, qui ne recule devant rien. Mais si pour une petite affaire qu'on fait sortir, vous avez peur, vous vous taisez, vous n'êtes pas digne de gouverner. Un leader, c'est quelqu'un qui est déjà mort pour sa patrie. Et quand vous avez une telle audace, le peuple ne peut que vous suivre.
D'accord. Pour parvenir à une bonne gouvernance, professeur Abdoulaye Niang, quelles doivent être les priorités du prochain président de la République?
Bon, d'abord, il faut définir la gouvernance. Parce qu'en réalité, c'est un système de gouvernance. Donc, nous avons la gouvernance administrative et politique. Nous avons la gouvernance sociale et culturelle. Puis vous entendez parler de la gouvernance sociale et culturelle tout le temps. La corruption et tout ça, ça fait partie de la mauvaise gouvernance sociale et culturelle. Parce qu'en notre temps, même, on ne faisait pas des choses comme ça. Bon. Et puis, vous avez la gouvernance économique et d'entreprise. Bon, c'est ce que Issa, mon frère, martèle souvent. Mais il faut passer. La France n'est plus aussi importante et aussi puissante économiquement dans nos pays. Si aujourd'hui, nous les chercheurs, et c'est ça notre défaut, chacun cherche de son côté et défend son petit champ et on refuse de travailler ensemble. Si on travaillait ensemble et qu'on définissait une vision claire et nette pour notre pays, pour l'Afrique et pour le monde, une vision de globalisation, de co-entrepreneuriat, si on le faisait comme il faut, aujourd'hui, l'Afrique ne sera pas là où elle se trouve. Et puis, tu as maintenant la gouvernance régionale et globale. Dans la bonne gouvernance régionale et globale, il ne faut plus se leurrer. Ce n'est pas au Mali d'assurer sa sécurité seule. Parce que c'est quand le Mali assure sa sécurité militaire, n'est-ce pas, pour permettre à d'autres de venir exploiter ces ressources naturelles, et vous voulez que ce soit les Maliens qui se fassent tuer et pour permettre à un Français de venir exploiter l'uranium à Faléa, j'ai dit non. S'il y a une menace contre la communauté locale de Faléa, il faut que la France, l'Allemagne, les États-Unis y contribuent en ressources sécuritaires.
D'accord. Et nous, nous avons dit 60%. Qu'est-ce que le futur président du Mali doit faire pour qu'on puisse avoir ce que vous demandez?
Il faut que si nous avons échoué avec l'actuel président de la République, c'est parce qu'on s'était mis d'accord qu'il allait travailler avec les chercheurs, les intellectuels. Et on lui avait donné des pistes. On lui a même donné des documents et tout. Mais quand il est venu, il a trahi, il est parti dans la corruption de la famille. Et les chercheurs sont devenus ses ennemis numéro un. Donc, il faut que le futur président de la République sache que c'est un système de gouvernance qu'il a devant lui et qu'il est dans un cercle de co-entrepreneuriat où vous avez la société civile qui joue son rôle, la communauté des affaires qui joue son rôle et que la classe politique n'est rien d'autre que pour les programmes de stimulation et de sécurité pour que la classe économique travaille et que la classe économique réponde à la demande universelle du citoyen. Et dans tout ça, c'est le chercheur qui élimine, c'est le chercheur qui donne la lumière à ces gens-là. Donc, tant qu'on ne revient pas à ce modèle de développement, tant que...
Mais certains de ces chercheurs ne sont-ils pas eux-mêmes aussi corrompus?
Oui. Vous savez, on ne peut pas être chercheur si on a faim. Dès que tu as faim seulement, tu vas dans la corruption parce que tu ne peux pas... Tant que tu ne dors pas bien, tant que tu ne manges pas bien, tant que tu n'es pas dans une belle maison... Dans une voiture qui te donne la fraîcheur, hein, même si j'ai dit que je n'ai pas mettre la fraîcheur.
Comme on ne peut pas être un bon journaliste si on a faim, un président de la République, on ne peut pas bien faire son travail si on a faim. Mais est-ce que vous priorisez cette collaboration entre les dirigeants et les chercheurs? Mais est-ce que certains de ces chercheurs-là font réellement le travail?
Non, d'abord, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, tant qu'il faut qu'il y ait une paille de salaire appropriée, il ne faut pas affamer les chercheurs. Il ne faut pas affamer les intellectuels. Il ne faut pas affamer tout juste les citoyens. Or, on affame les citoyens pour justement développer la corruption.
D'accord. Monsieur professeur Issa Ndiaye, est-ce que vous pensez que le Mali a le système de gouvernance qu'il lui faut?
Monsieur, je ne crois pas à ces concepts-là de gouvernance. Il y a longtemps que j'ai dépassé. Je pense que le problème encore, c'est qu'il y a un certain cafouillage intellectuel que l'on organise sciemment dans nos pays. Mon collègue tout à l'heure disait que c'était le Colonel Keïta. Mondego Keïta était un grand patriote, quelqu'un qui tenait la route à tout point de vue. Mais malgré tout, il a échoué. Il a échoué. Je ne pense pas que la solution va devenir d'un sauveur, d'un chef, quel qu'il soit. Il faudrait donc d'abord que nous commencions par penser par nous-mêmes. Laissez de côté toutes les notions de gouvernance et de trucs. Je pense que c'est un écran de fumée pour cacher la réalité. La réalité, c'est que nos pays sont pris à la gorge. Il y a un système de domination mondiale qui fait que nos pays n'ont aucune chance de s'en sortir. Donc il faudrait que nous, autres Africains, nous en prenions conscience et que nous développions des politiques alternatives qui nous permettent donc d'être autonomes, d'être souverains, d'être indépendants à tout point de vue, au plan économique, en ce qui concerne. On ne peut pas se développer sans prendre le contrôle des ressources, de nos ressources nationales. C'est une question fondamentale. Or, on ne va pas nous laisser faire. La raison essentielle de la guerre...
Qui ne va pas nous laisser faire?
Les puissances occidentales.
D'accord. Le professeur Niang dénonce... pense qu'aujourd'hui, il faudrait une meilleure collaboration entre les dirigeants et les chercheurs. Notamment, c'est une collaboration entre intellectuels. Alors, au-delà de la crise de confiance aujourd'hui entre gouvernants et gouvernés, est-ce que vous pensez que l'analphabète a confiance aujourd'hui à l'intellectuel malien?
Pas du tout. C'est pourquoi je dis la question. Je pense que la situation est telle que, y compris les politiques, y compris les intellectuels, nous avons tous failli. Au contraire, il faut renverser l'échelle des choses. Il faudrait que, à mon avis, le salut ne peut être de la base que du niveau des populations. C'est pourquoi moi je le dis et je le répète depuis un certain temps, la crise du Mali est telle, retournons un peu pour demander au peuple malien qu'est-ce qu'il veut pour le Mali, ou quelle voie il veut. Maintenant, les intellectuels y réfléchiront, trouveront les meilleures alternatives pour aller dans le sens de la satisfaction des aspirations des Maliens. Mais nous ne pouvons pas nous mettre, parce que nous sommes intellectuels, pour continuer à parler à la place des gens. C'est ça le fond du problème. On cite le cas de Kagame. Kagame a collé à son peuple. Il a son peuple derrière lui. Ils ont payé le prix de 800 000 morts. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas l'extérieur qui vient dicter sa loi. Même s'ils viennent avec leur argent, ils disent, dis non, allez-vous-en avec votre argent. Pour que nous soyons autonomes, il faudrait que nous pensions maliens. Pour que nous puissions penser maliens, il faudrait qu'on laisse parler les maliens.
D'accord. Alors,
tout ce qui se fait dans ce pays-là, c'est décidé par-dessus la tête des maliens. Les maliens ne décident de rien chez eux. Et notre président, c'est pareil. Il décidera de rien au Mali, quel qu'il soit. Tout vient de l'extérieur, tout vient dicté de l'extérieur. Et on va l'obliger à aller là. Même s'il est courageux, s'il y va, il finira peut-être comme un Sankara, on va l'assassiner.
D'accord, docteur Diakari Poudjougou.
Merci encore.
Docteur Diakari Poudjougou, vous pensez que pour parvenir à une bonne gouvernance, il faut lutter contre la corruption. Comment le prochain président peut-il faire pour lutter contre cette corruption?
Merci. Je voudrais rebondir rapidement sur ce que le professeur Ndiaye vient de le dire.
Allez-y.
Je partage certains points de vie avec lui, mais pas d'autres. Lorsqu'il dit « Modibo Keïta a échoué », je ne suis pas d'accord. Modibo n'a pas échoué. Aujourd'hui, mort, il est plus valeureux que certains vivants. Et beaucoup d'autres vivants, d'ailleurs, qui sont présidents. Ça, c'est un. Paul Kagame, qu'on le veuille ou pas, c'est un exemple assez parlant.
Qu'est-ce qu'il a réussi,
Modibo a réussi. Il n'a pas échoué. Ceux qui ont échoué, c'est ceux qui sont venus après lui et qui n'ont pas continué sa marche. Parce qu'une nation, c'est comme un serpent dont on coupe une tête et qui repousse.
D'accord, mais qu'est-ce que Modibo qui a réussi?
Modibo, est-ce qu'on osait occuper une partie de notre territoire? Qui oserait? Qui avait osé essayer cela? Il l'a fait. Plus que cela, nous avons aidé d'autres pays à accéder à l'indépendance. Ça, c'est clair. Donc, je prends la question sécuritaire, si vous me permettez. Il y a un volet important que je voulais soulever.
D'accord.
Si nous prenons le paludisme, vous voyez, nous faisons souvent de faux combats. On voit l'insécurité, oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de Maliens qui meurent. Mais est-ce que vous savez que le paludisme tue beaucoup de Maliens que la crise dont nous sommes en train de parler? Est-ce que c'est une occupation étrangère qui est à l'origine de cela? Est-ce que nous ne sommes pas capables de rendre nos villes propres?
Est-ce que tout cet argent qu'on vole ne peut pas être utilisé pour rendre Bamako et les autres villes du Mali propres, zéro moustique, zéro pali? Est-ce que nous ne sommes pas capables d'atteindre cet objectif? Un président sérieux et autonome est capable de le faire. Et pour y arriver, il faut d'abord convaincre le peuple. Déjà, quand on est choisi, je crois qu'on a eu la confiance du peuple. Il faut maintenant prouver. Quand vous prouvez une confiance, alors on ne fait que vous suivre. C'est aussi simple. Mais au lieu de convaincre, on cherche à séduire. Nous n'avons pas besoin de séduction. On veut des gens qui veulent nous convaincre en faisant les choses dont nous avons besoin. Nous sommes autonomes et je le dis encore, personne ne peut nous empêcher de faire, de réaliser ce que nous voulons pour notre État.
Vous dites que quand on est choisi, on bénéficie du soutien du peuple. Mais est-ce que ces dirigeants sont réellement choisis par le peuple?
C'est une bonne question. Si nos dirigeants ne sont pas choisis par nous-mêmes, nous sommes encore responsables. Et avant de soulever ce point, je voulais dire une chose très importante qui allait m'échapper. Donc, si nous n'arrivons... Bon, je vais quand même répondre directement à votre question pour ne pas l'écarter. Si nos dirigeants ne sont pas choisis par nous-mêmes, c'est que nous ne sommes pas encore, excusez-moi, autonomes. Nous sommes encore des mineurs. C'est clair. On dit souvent tel peuple, tel dirigeant, ou tel dirigeant, tel peuple. Et là aussi, il y a la question de l'éducation. Il faut mettre l'accent sur l'éducation, parce que l'ignorance est la pire ennemie d'une nation.
Quand vous parlez d'éducation, est-ce que vous parlez d'aller à l'école?
D'aller à l'école, mais aussi des formations supérieures pour avoir des compétences. Mais le minimum, c'est aller à l'école pour avoir l'esprit ouvert, parce qu'on n'étudie pas seulement pour travailler.
D'accord. Dans le domaine de l'éducation, justement, que faut-il?
Il faut créer des conditions, n'est-ce pas, d'une éducation qui épanouit le citoyen, qui ouvre l'esprit pour que le citoyen développe un patriotisme, n'est-ce pas, et qu'on ne puisse plus l'utiliser comme un objet.
Donc le système actuel n'ouvre pas l'esprit?
Le système actuel n'ouvre pas du tout l'esprit. Je dis souvent à mes étudiants, excusez-moi d'ailleurs, de se comporter comme une pâte rebelle. Parce que nous sommes utilisés comme des pâtes, on nous fait entrer dans des moules pour faire sortir des formes qu'on veut. Actuellement, l'éducation qu'on donne dans notre système, c'est une éducation qui est une sorte de moule qui est déjà connue, des formes qu'on veut. C'est pourquoi on peut sortir avec de grands diplômes et être incompétent ou ne pas avoir l'esprit ouvert. C'est pourquoi nous avons de grands ignorants diplômés. Il faut donc avoir un système éducatif qui ouvre réellement l'esprit. Savoir que nous sommes autonomes, nous sommes capables. Il faut que nous réalisons que nous sommes réellement capables d'atteindre les objectifs que nous voulons. Mais si nous grandissons avec un système de rapport de force, c'est comme ça. Mais les rapports de force, la force c'est quoi en relations internationales? Chacun a des forces. Vous rappelez, je ne suis pas économiste, mais la crise économique qui a amené, comme on appelle... excusez-moi, il y a tellement de choses qui passent
qui
dans la
tête.
Mais ce sont les pays producteurs du pétrole qui sont à l'origine. Nous avons, nous aussi, plus que le pétrole. Nous avons combien de ressources? Ce sont nos forces. Même l'immigration peut être utilisée comme une force si nos dirigeants étaient intelligents.
Ne le sont-ils pas?
Alors, s'ils le sont, qu'ils le prouvent. Parce que je fais mes observations sur la base des preuves. Je suis sûr que même l'immigration irrégulière ou clandestine, comme il l'appelle...
Alors, est-ce une question de compétence ou de volonté?
C'est à la fois une question de compétence et de volonté. Ce sont les deux.
D'accord. Alors, professeur Abdoulaye Niang, pour une bonne éducation, que proposez-vous?
Bon, nous avons bénéficié d'une bonne éducation. Et à notre temps, c'était le temps de Modibo, et la colonisation, mais Modibo. Il suffit seulement de prendre le lycée avec le système d'internat. C'était formidable.
L'internat. Aujourd'hui, l'internat, le campus universitaire existe, mais on sait que ce n'est pas une bonne solution.
Le lycée, est-ce qu'il y a... On était de milliers là-bas, mais...
Est-ce qu'aujourd'hui, le campus... Diakari Poudougou, vous êtes à l'université de Bamako. Est-ce que le campus aujourd'hui n'a pas contribué à détériorer la situation?
Oui, lui il est là-dedans, ce n'est pas la peine de le demander. Ils sont souvent acteurs.
Oui, il va juste donner son avis en 30 secondes.
Ils sont souvent acteurs aussi. Allez-y.
Alors, moi, j'accuse le système, pas ceux qui sont à l'université, parce qu'ils sont les produits d'un système. Si le système est bien fait, il ne fait que produire. C'est une question de moule. Si les moules ont une bonne forme, on ne peut faire sortir que de bonnes formes.
D'accord. Alors, professeur Niang, pour ne pas revenir en arrière, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui?
Non, il faut réellement sortir de la corruption à l'école.
Comment?
Il faut bien payer les enseignants. Ça, c'est un problème. Il faut
vous mais est-ce que vous pensez que l'être humain peut toujours être satisfait de ce qu'il gagne? Est-ce que vous pensez que c'est une question de salaire?
Non. Bon, si vous voulez, en ce moment, je vais vous répondre de façon, de façon terre à terre.
D'accord.
Si on part aujourd'hui à la régionalisation et qu'on est plus proche de sa communauté, de ce qui peut prendre les sanctions sociales sur vous quand vous êtes à déviation comportementale avérée par rapport à l'intégrité ou par rapport à la fraude, le blanchiment et tout, je peux vous garantir que nous allons jouer un rôle très important pour restaurer le système scolaire. Parce que nous, depuis à bas âge, c'était d'abord les gens de même âge qui se corrigeaient. Tous les parents, tous ceux qui sont plus âgés que toi, sont tes maîtres pour te corriger. Et l'école, le maître était exemplaire. Aujourd'hui, les maîtres ne sont plus exemplaires. Les professeurs ne sont plus exemplaires. Les étudiants ne sont plus exemplaires. Moi, j'ai enseigné à Katibou dans les années 72, 72, 73, 74. Mais nous avons des étudiants qui sont aux États-Unis aujourd'hui qui sont les meilleurs, des très grands professeurs. Pourtant, c'était ici. Il y avait des gens du Togo qui venaient, du Gabon qui venaient. On les donnait des cours ici. Mais aujourd'hui, mais il faut voir notre système éducatif. Ou bien ceux qui sont partis étudier à l'étranger. Mais c'était des gens qui étaient très, très respectés aussi en tant que simplement étudiants. Et qui sont revenus. Mais aujourd'hui, nous avons l'exemple donné par les leaders dans la déviation. Et il n'y a rien d'autre que de continuer dans la déviation. Il faut savoir choisir des leaders qui sont honnêtes, des leaders qui sont sincères. Mais malheureusement, quand on voit les présidents de la République, des présidents de la République qui sont déviants, leurs femmes leur imposent un style de gouvernance qui fait que finalement, on n'a plus de respect pour... on prend le cas du Mali, pour les Maliens aujourd'hui. Tu vas à l'étranger, bon, on dit, ah oui, vous êtes de cette génération, ça va. Mais la génération actuelle, on n'en a pas besoin. Mais, pour ne pas aller trop loin aussi, est-ce qu'il est possible aujourd'hui que nous... que Diogo est plus jeune, mais Issa et moi sont d'une autre génération, que nous nous acceptons aujourd'hui de sortir du système un peu et de préparer le terrain pour eux et de venir. Et que nous allons nous asseoir sur le baobab pour prendre le fouillet. Quand il y a la déviation, on les appelle.
Est-ce que vous n'avez pas toujours faim de ce pouvoir? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que les vieux vont laisser les jeunes prendre le pouvoir?
Non, si on ne le fait pas... Il faut nous faire partir.
D'accord. Alors, professeur Issa Ndiaye, pour une bonne éducation, vous, que proposez-vous dans le domaine de l'éducation?
Je pense qu'il y a deux choses fondamentalement. Je vais vous répondre à la question, mais je vais aller directement. Il y a deux choses fondamentalement. Il y a le système et puis il y a les hommes. Donc, le système, ça veut dire qu'il faut une vision, même pour l'éducation. Quel type d'école voulons-nous? Quelle éducation nous voulons-nous? Pour faire quoi de ce pays-là? Donc, c'est une question essentielle. Je dis ça, c'est la question de la vision. Il y a ensuite la question des hommes. Il faut former des ressources humaines de qualité. Or, ces deux conditions actuellement ne sont pas réunies dans son pays, dans notre pays. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas une affaire de président. C'est ce pays qui est tordu. Il faut le redresser. Pour le redresser, il faut sortir du système actuel.
Qui va le redresser? Qui doit le redresser?
Les Maliens eux-mêmes, c'est-à-dire le peuple malien, c'est une affaire de peuple, ce n'est pas une affaire de décision.
D'accord, merci. Et c'est ce qui met fin à cette émission. Quelle priorité, quel défi pour le prochain président du Mali? Ce qu'il faut retenir un peu, c'est la souveraineté, la lutte contre la corruption, la sécurité et la souveraineté du pays. Alors, nos invités, professeur Abdoulaye Niang, directeur du centre de recherche Séné, docteur Diakari Poudjougo, juriste chargé de cours à l'université de Bamako, et professeur Issa Ndiaye, spécialiste des questions sécuritaires. Débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani, mise en onde assurée par Mamadou Ouattara à la régie vidéo Gagné Kanté. Merci de l'avoir suivi. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et toi.
Edewani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Halud Mounde.
Chenne Berry, Sekeka Fomba.